France Inter.
Ce soir, j'ai réuni deux jeunes gens, deux sportifs de haute altitude. Ils pratiquent pas tout à fait le même sport. L'un, c'est la bicyclette, l'autre, ce sont ses pieds. Ce soir, nous avons la chance d'avoir dans ce studio Emmanuel Ruben, qui vient de sortir un livre qui s'intitule « Sur la route du Danube » et Antoine Debecq, « Ma transhumance, carnet des routeaux ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ça sera avec Queen.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me.
Mama just killed a man, put a gun against trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry.
Yeah.
Alors voilà, ce sont des livres de passion, ce sont des livres qu'on ne quitte pas, tellement on est emporté par cette espèce d'instinct qui vous a pris, je pense, depuis peut-être l'adolescence, vous Emmanuel Ruben, vous c'est la passion pour la petite reine, et vous allez dans ce cadre-là parcourir l'Europe. Et vous allez remonter, ou plutôt descendre, le Danube. Et vous, Antoine Debecq, vous allez refaire un chemin qui n'existe plus, hélas. Il a disparu de notre carte géographique et mentale, c'est celui de la transhumance. Alors, première question qui s'adresse à vous deux. J'ai un peu compris, Antoine, grâce au début de votre livre, que cette passion pour la montagne avait commencé très petit. Emmanuel, je n'en sais rien. Alors, à quand remonte votre première passion pour la marche en montagne?
Oui, c'est une passion adolescente. C'est une passion qui est liée à un massif particulier qui est le Vercors, hein, où mes parents avaient une maison et où j'ai passé beaucoup d'été, beaucoup d'hiver, de petits Parisiens à la montagne. Et quelque chose qui me faisait rêver par-dessus tout, c'était de voir les bergers mener les bêtes, mener les moutons, le matin ou le soir. Je passais pas mal de temps devant, un petit peu en amont comme ça, pour les regarder. Pour les regarder mener un troupeau, pour les regarder, c'est tout à fait passionnant comment tout seul avec 2-3 chiens, on peut diriger de façon extrêmement précise un troupeau de 1000 à 1500 bêtes, quoi. Et donc c'est sûr que c'est une passion qui est née à ce moment-là, dans ce lieu-là, et que à travers ce chemin, ce livre, donc j'essaye de non pas de retrouver ou de ressusciter, mais en tout cas de, parce que j'ai pas vraiment bien compris pourquoi j'ai eu cette passion. Elle a été là, elle a disparu pendant pas mal de temps où j'ai plus été du tout en montagne, et puis elle est revenue. Alors ça, je sais aussi pourquoi elle est revenue. Elle est revenue quand mon père est mort et que j'ai retrouvé dans les archives qu'il avait gardées. Pas mal de journaux que je tenais à ce moment-là, dans mon adolescence, où je racontais la montagne, comment partir tout droit vers les pas du Vercors, vers les falaises, vers le Grand Vémont. Et donc ça j'ai compris, mais pourquoi est-ce que tout d'un coup je me suis tant attaché aux moutons, et pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça, ça j'ai pas tout à fait compris.
Et vous, Emmanuel, alors vous avez tous les deux publié de nombreux ouvrages qui ont trait soit à des essais, soit à l'histoire culturelle, soit à votre amour du cinéma en ce qui concerne Antoine, et à l'amour de l'histoire de la culture en France, des livres très importants pour comprendre notre modernité. Emmanuel, vous avez publié des romans et des essais, et certains essais qui sont particulièrement dédiés à l'Europe d'aujourd'hui, donc on comprend bien qu'à l'intérieur de ce voyage en vélo à travers une grande partie de l'Europe, il y a aussi la passion de comprendre les contours de notre Europe en ces moments que nous vivons à si proche des élections européennes. Mais j'ai cru comprendre aussi, en lisant votre livre, qu'il y avait une passion d'amitié avec un de vos camarades avec qui vous aimez faire du vélo.
Oui, bien sûr. Alors, ce livre est aussi un livre d'amitié, mais pour revenir à ce que disait Antoine, moi, cette passion pour le vélo, pour la petite reine, elle a commencé aussi dans le Vercors, puisque j'ai ma famille paternelle qui vient de Die, dans la Drôme, et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans le Vercors, et c'était d'abord la marche, avec une grand-tante libraire qui m'emmenait sur les chemins du Vercors. Donc tous les lieux qui sont cités au début du livre d'Antoine, je les connais. Mais très vite, je suis passé à la petite reine, au vélo, parce que j'ai eu ce besoin d'aller plus loin, en fait, et que la petite reine permet de franchir plus facilement les cols que la marche. Je suis aujourd'hui plutôt un mauvais marcheur. Pour ce qui est de l'Europe, je trouvais que le vélo était la bonne, un moyen de locomotion parfait, idéal pour traverser l'Europe à pied. Certains l'ont fait, mais c'est très très long. En vélo, il faut compter 48 48 jours. Nous mettons 48 jours avec Vlad dans ce livre pour traverser cette Europe. Et je l'ai fait, oui, avec un ami. Qui est un peu imaginaire quand même dans le livre. C'est un ami imaginaire, Vlad. Je voulais qu'il soit ukrainien.
Vous voyez, j'y ai cru, moi, Vlad. Ah, oui.
C'est fait pour qu'on y croit.
Donc vous étiez tout seul sur ces chemins-là?
Non, j'étais avec un autre ami qui savait qu'il deviendrait Vlad. Dans le livre, je l'avais prévenu, je l'avais dit, tu sais, tu deviendras Vlad, et ça n'avait pas dérangé. Mais en fait, il y avait un roman qui préexistait à l'écriture du récit, et pendant très longtemps, je n'ai pas su si ce livre serait. Je savais que ça serait un livre fleuve, je savais que ça serait un livre.
C'est
long.
Le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots.
Oui, mais je savais que ça serait un livre long, puisqu'on ne raconte pas un fleuve comme le Danube qui fait 2888 km en 200 pages, je ne crois pas. Donc il fallait de l'ampleur. Ensuite, je ne savais pas si ça serait un roman ou un récit. Et je ne sais toujours pas aujourd'hui, mais
c'est
une rhapsodie, comme la Bohémienne Rhapsodie.
Absolument. Ouais. Donc, ça veut dire que vous avez entrepris ce voyage par amitié et aussi pour ne pas être seul.
Oui, pour
vous affronter à vous-même, à vos propres limites corporelles et psychiques. C'est une question que je pose à tous les deux. D'abord, Emmanuel.
Les limites, c'est essentiellement la fatigue, et puis aussi, comme on fait beaucoup de rencontres et qu'on boit beaucoup, ce sont les limites qui sont imposées par les rencontres qu'on fait. C'est-à-dire que le lendemain, des fois, c'est un petit peu difficile de se réveiller.
Alors, du côté d'Antoine Debecq, c'est plus calme. Il n'y a pas tellement de fêtes sur le parcours, parce que les bergers sont des êtres plutôt taiseux, plutôt économes. Ils ne boivent pas beaucoup parce qu'ils travaillent énormément. Ils ne dorment pas beaucoup. Ils sont toujours aux aguets. Vous l'avez rappelé, hein, trois chiens et des centaines de moutons. Et d'autre part, ces chemins de la transhumance traversent beaucoup, beaucoup de paysages désertiques où pendant des jours et des jours, on ne rencontre personne.
Oui,
que soi-même.
C'était une des conditions de l'expérience, c'était effectivement de souffrir un peu.
Au début, hein, les deux, vous souffrez beaucoup, mais au début, après, vous endurcissez.
Moi, je trouve que c'est le début d'une marche ou d'une virée en vélo qui est le plus compliqué physiquement. Ensuite, il y a même un phénomène d'euphorie. Je pense que c'est quelque chose de physique, hein, tout simplement d'hormonal. Mais c'est vrai que le chemin de la transhumance complique la chose au sens où c'est un chemin du sud, effectivement très sauvage, souvent du sud, donc chaud, hein, c'est un chemin
le
de
cagnard.
Soleil, notamment quand je le fais au bois de juin, entre juin et juillet-août, évidemment, ça cogne. Et puis, c'est un chemin qui, effectivement, traverse des... Alors, c'est l'intérêt aussi, c'est la diversité des lieux que ça traverse, mais on peut dire qu'il y a quand même une sorte de point commun, de ligne directrice, c'est l'aspect presque un peu désertique ou de steppe même, hein, puisque tout part de l'accro...
Plaine
de l'Accro, qui est la plus grande steppe d'Europe occidentale.
Et qui est en France.
Et qui, voilà, au-dessus de Marseille, à côté de Marseille. Et c'est vrai que ça donne un petit peu le ton. C'est-à-dire que l'Accro, c'est des tas de cailloux avec pas grand-chose autour au-dessus ou en dessous, que du caillou. Et puis des moutons, parce que voilà, il y a un système d'irrigation qui s'est mis en place très tôt, dès la Renaissance, pour pouvoir établir un système pastoral qui s'est mis là. Et ensuite, c'est vrai qu'en suivant les moutons ou le chemin qui a existé donc jusqu'à la fin des années 50, début des années 60, on traverse toute une série de lieux assez désolés, assez désertiques, comme le plan de Canjuers, comme toutes les montagnes au-dessus de Digne, qui sont des lieux très à la géographie très compliquée, et puis même l'arrivée dans les alpages du Mercantour, hein, qui sont à la fois, on est dans la majesté des Alpes, mais en même temps, on est dans un espace quand même qui est relativement désert. Et Par définition, il faut que les moutons puissent y trouver leur compte. Et donc, les moutons aiment assez peu la compagnie, à part du berger, la compagnie des hommes. Ils sont, c'est une espèce très grégaire et très particulière qui redoute deux choses, c'est, je pense, les loups et les hommes. Et donc, en suivant le chemin de transhumance, on fait un chemin d'ascèse, ça c'est sûr. Alors, qui est compensé par pas mal de choses, je pense que c'est pareil en vélo et à pied, ce sont essentiellement des rencontres. Donc
et la question des limites?
Bah les limites, on les touche très vite, on les touche par le physique effectivement. Qu'est-ce qu'on fait au bout de 4-5 jours quand on a pas assez dormi pour repartir le matin? C'est une vraie limite physique. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a les pieds en compote? Moi, je suis plutôt un montagnard et marcher sur le plat, comme on le fait en Provence en commençant ce chemin, est quelque chose qui me fait beaucoup plus souffrir que de passer un col. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a les pieds et les ampoules comme ça à vif? Et puis qu'est-ce qu'on fait quand on voit personne pendant 3, 4, 5 jours?
Non, mais vous exagérez, Antoine. Vous êtes parti très longtemps, mais si Emmanuel est parti avec un copain, même si Vlad est inventé, il est parti avec quelqu'un qui lui était très proche. Et vous faites rejoindre par votre amoureuse.
Ah bah oui, bah, à un moment,
d'ailleurs, il faut... on se demande si vous n'êtes pas parti dans cette aventure de transhumance pour essayer de faire en sorte que votre amoureuse puisse vous faire pardonner quelques petits problèmes conjugaux.
C'est sûr que...
C'est et dans la solitude des alpages, vous retrouvez.
C'est une pastorale, et la pastorale a été une sorte de genre amoureux, hein. Et donc oui, moi j'avais envie de raconter aussi quelque chose qui était de l'ordre de l'intime. Puisqu'on part marcher, on est seul avec soi-même la plupart du temps, on gamberge, beaucoup de choses reviennent et voilà, on est dans une forme de, je trouve, à la fois de marche et de récit intime qui convoque assez vite, en tout cas c'est mon cas, aussi bien des crises sentimentales intimes qui peuvent être tout d'un coup des passions de jalousie comme ça qui vous traversent et qui vous torturent, que aussi des amours qui se retrouvent. Je pense que c'était évidemment un des projets du livre, c'est-à-dire c'est de à la fois de faire un chemin et puis de faire un couple, ouais, ça c'est sûr.
Je vous propose d'écouter la voix de Nicolas Bouvier, grand écrivain du voyage. C'est peut-être lui qui a inventé d'ailleurs ce ton, ce style inimitable, le voyage initiatique, le voyage philosophique. Il va s'exprimer à propos de la perception polyphonique du voyage. Que cherche-t-on quand on part?
J'ai constaté que sous le pays réel, sous le premier pays qu'on perçoit, il y a un pays caché. Et au fond, il faut prendre le temps de décoder cette espèce d'héraldique secrète, ou alors vous commencez à percevoir les choses en polyphonie et non plus de façon monodique, parce que notre perception des choses est, je trouve, trop souvent monodique, alors que le monde est polyphonique. Je pense à une façon de voyager où on laisse le voyage prendre les choses en main, c'est-à-dire qu'on laisse au voyage la liberté de vous construire ou de vous détruire, parce que voyager n'est pas du tout une activité innocente. C'est assez dangereux pour le mental.
Alors nous venons d'entendre la voix de Nicolas Bouvier. C'est vraiment le voyage qui vous prend en main et qui vous a pris en main aujourd'hui, avec le recul que permet la publication de vos deux ouvrages. Il s'est passé quelques mois. Vous avez l'impression que vous avez été agi par le voyage, Emmanuel Ruben?
Nicolas Bouvier dit ce n'est pas c'est le voyage qui vous fait, et en effet après quand on a fait ce voyage de 4000 km pendant 48 jours en remontant le Danube, on n'est plus le même. Une question qu'on me posait souvent, on me disait deux questions: qui l'a emporté, on me demandait, le journaliste me demandait qui l'a emporté sur le vélo de l'écrivain, du géographe ou du dessinateur, parce que je dessine aussi. Ben, je disais l'homme, tout simplement, puisqu'en fait on n'est plus séparés. En fait, moi, sur une selle de vélo, je ne me sens sens plus séparé. Il y a ces moments d'euphorie, ce que j'appelle l'extase géographique, qui sont des moments, oui, vraiment, où on a l'impression que tout est réuni pour un bref moment, mais c'est déjà très très important de pouvoir atteindre ces moments. Il y a aussi dans un tel périple cette impression qu'en effet on devient quelqu'un d'autre. Alors moi, on me demandait qu'est-ce que vous avez gagné, et je disais j'ai gagné un plus grand cœur, parce que je sais une seule chose, c'est que le vélo, ça muscle le cœur, et c'est comme ça que je termine le livre. C'est ma seule certitude, en fait.
Enfin,
au final,
un plus grand cœur aussi, dans la mesure où vous avez rencontré des inconnus que vous n'auriez jamais rencontrés sans entreprendre ce périple, des gens qui sont loin de vous socialement, géographiquement, culturellement, et avec qui vous avez pactisé.
Une Europe méconnue, une Europe périphérique, alors que cette Europe se trouve au centre géographique de l'Europe. C'est une Europe qui aujourd'hui, économiquement, se retrouve en périphérie. Parce que si le Danube traverse quatre capitales d'Europe, que sont Vienne, Bratislava, Budapest et Belgrade, qu'il ne fait parfois qu'effleurer, il traverse surtout en fait des campagnes, des zones rurales qui sont parfois extrêmement à l'abandon, et des pays qui sont des régions qui sont totalement dépeuplées aujourd'hui, notamment à la frontière entre la Roumanie, la Bulgarie et la Serbie. Et puis je voulais dire aussi sur cette idée de polyphonique, à laquelle je souscris parfaitement, parce que j'ai écrit un roman polyphonique, Sous les serpents du ciel, mais ce livre, je m'en suis rendu compte après, sans le vouloir, que finalement c'était un livre polyphonique. Mais pourquoi ? Parce que le fleuve, il est polyphonique. Dans le Danube, vous entendez plusieurs voix. Le Danube vous parle plusieurs langues. Il n'est jamais le même, comme toute rivière. Mais lui, il est particulièrement long. Et surtout, il traverse plusieurs pays. Et il change de nom. Les Allemands disent Donau. Et Donau, c'est allemand. C'est féminin. Donc ce n'est pas la même perception. Le fait simplement que le fleuve devienne une rivière, soit féminin en Allemagne, c'est déjà une perception différente. Et puis ce fleuve, il change de nom dans chaque pays. Alors je ne donnerai pas tous ces noms, mais aussi il change avec les affluents. Par exemple, quand il conflue avec l'Inn à Passau, à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, il devient complètement différent. C'est-à-dire que il suffit de se situer à Passau sur cette presqu'île sur laquelle est construite la ville, puisque la ville est construite sur une presqu'île, et de voir l'Inn et le Danube confluer et d'assister à ce mariage qui est plutôt une forme de dévoration que de mariage, puisqu'en fait l'Inn dévore d'une certaine manière le Danube, pour se rendre compte que voilà, on a deux forces en présence, et finalement comment appeler ce qui perdure ensuite. Les géographes ont choisi de dire que c'est la source la plus éloignée de l'embouchure qui détermine le fleuve. Et Bachelard disait parce que on a besoin que l'histoire d'un fleuve soit l'histoire d'un roi. Mais les hydrographes ne sont pas d'accord. Les hydrographes pensent qu'après Passau, c'est l'Inn qui se poursuit. Donc voilà, il y a entre les hydrographes, les géographes ne sont pas d'accord. À chaque fois, on peut considérer qu'à chaque confluence, le fleuve se transforme. Et si on avait voulu vraiment remonter le Danube complètement, il aurait fallu remonter tous ses affluents, et pas faire 4000 km, mais peut-être 28000.
Alors, impossible de ne pas faire référence au livre majestueux, si j'ose dire, qui a fait date, de Claudio Magris, qui s'intitule tout simplement Danube. Impossible de ne pas, quand on vous lit et quand on vous entend, Emmanuel Ruben, de considérer que vous avez des rapports avec ce Danube, vous en parlez comme d'un être vivant. Et d'ailleurs, par moments, il est plutôt accueillant, à d'autres moments, il est plutôt tempétueux. Vous le vivez comme un adversaire, comme un complice, comme un ami. Mais contrairement à Claudio Magris, vous n'avez pas pris le même sens et vous n'êtes pas remonté jusqu'à la source. Vous avez fait l'inverse. Et j'ai l'impression aussi... c'était il y a quoi, 20 ans, ou 25 ans, le livre de Claudio Magris, Danube.
Le livre de Claudio Magris est paru en 1986 en Italie et relate un voyage de début des années 80.
Donc beaucoup de choses ont changé, voilà, et ça ne s'est pas arrangé.
Bien sûr, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et pas seulement de l'eau, mais aussi du sang. Quand Magris fait son voyage, la Tchécoslovaquie existe encore. La Yougoslavie existe encore. L'Union soviétique existe encore. Il n'y va pas parce que probablement il n'a pas de visa pour l'Union soviétique, mais il va en Tchécoslovaquie, il va en Yougoslavie. Et je me suis dit qu'il était important aujourd'hui de faire ce voyage. Ce livre, c'est un hommage au livre de Magris. Pour moi, c'est un livre très 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 important pour moi. C'est un livre que j'admire. Et en même temps, c'est un livre qui donne une trop grande importance à toute la moitié germanique et anciennement austro-hongroise du Danube, puisque Claudio Magris est un germaniste avant tout. Et il faut, dans son livre, il faut attendre la page 400 sur 550 pages pour passer de l'autre côté. Et l'autre côté, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le monde balkanique, en fait. La moitié du Danube, la moitié du cours du Danube se situe dans les Balkans. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre un peu plus l'accent sur les Balkans. Je voulais rétablir une forme de justice géographique, tout simplement. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'injustices géographiques. Et en tant que géographe, je suis sensible à ces injustices. Et je ne voulais pas écrire un livre qui reproduise ces injustices. C'est-à-dire que dans le livre de Claudio Magris, il y a 67 pages sur Vienne. Eh bien, je ne voulais pas écrire 67 pages sur Vienne. Je trouvais que ce n'était pas nécessaire, et je voulais considérer qu'une petite ville ukrainienne, comme Vilkovo, qui se situe dans le delta du Danube, où Magris ne va pas, pour des raisons qu'on peut comprendre tout à fait, puisqu'en fait, c'était l'Union soviétique, il n'y avait probablement pas de visa, mais je voulais faire en sorte, faire comme si en fait Vilkovo avait autant d'importance que Vienne. Et c'est ce que j'essaie de faire en partie dans ce livre.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Antoine Debecq qui s'intitule « Les godillots sont lourds dans le sac ».
Là-haut sur la colline est un joli moulin.
Là-haut sur la colline est un joli moulin.
Le meunier qui l'habite est un gentil blondin.
Le meunier qui l'habite est un gentil blondin.
Les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots sont lourds.
Les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots sont lourds.
Arrive une bonne vieille pour y faire moudre son grain.
Arrive une bonne vieille pour y faire moudre son grain.
Pour vous, ma bonne vieille, mon moulin ne tourne pas bien.
Pour vous, ma bonne vieille, mon moulin ne tourne pas bien.
Les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots sont lourds.
Les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots sont lourds.
Envoyez-moi votre fille demain de grand matin.
Envoyez-moi votre fille demain de grand matin.
Le lendemain arrive la fille d'un air mutin.
Le lendemain arrive la fille d'un air mutin.
Les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots sont lourds.
Les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots sont lourds.
Le meunier la renverse sur un grand sac de grain.
Le meunier la renverse sur un grand sac de grain.
La belle s'est endormie au tic-tac du moulin.
La belle s'est endormie au tic-tac du moulin.
Les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots sont lourds.
Les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots sont lourds.
Réveillez-vous la belle car votre sac est plein.
Réveillez-vous la belle car votre sac est plein.
Oh que va dire ma mère voyant mon sac si plein.
Oh que va dire ma mère voyant mon sac si plein.
Les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots sont lourds.
Les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots sont lourds.
Tu lui diras la belle que c'est le tic-tac du moulin.
Tu lui diras la belle que c'est le tic-tac du moulin.
Qui fait grossir le ventre et arrondir les seins.
Qui fait grossir le ventre et arrondir les seins.
Les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots sont lourds.
Les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots sont lourds.
Au bout de 9 mois à peine arrive un petit blondin.
Au bout de 9 mois à peine arrive un petit blondin.
Ayant sous la bedaine un tout petit moulin.
Ayant sous la bedaine un tout petit moulin.
Les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots sont lourds.
Les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots sont lourds.
Alors, on vient d'entendre une chanson populaire. Merci Antoine Debecq pour ce choix. J'ai remarqué que dans votre abondante bibliographie, il y avait un livre paru l'an dernier qui s'intitule « Les Godillots manifestent pour une histoire marché ».
Absolument.
C'est une nouvelle discipline de l'histoire, vous qui êtes historien. L'histoire Emmanuel marché. Est géographe, mais vous, vous êtes historien.
L'histoire marché, oui, absolument. J'ai essayé de créer un peu une discipline historique où l'historien, tout d'un coup, s'aperçoit qu'il a un corps, en fait. Et donc, et en même temps que ce corps peut lui apporter beaucoup de choses, aussi bien des archives qu'une manière de penser, une manière de repenser l'histoire. Le Godillot, puisque vous en parlez, c'est exactement ça. C'est-à-dire partir d'une petite chose qui peut paraître anecdotique, hein, une chaussure, et puis une chaussure dont on s'est beaucoup moqué, comprendre comment toute une culture matérielle s'est créée autour de la chaussure, avec le fondateur de cette chaussure qui s'appelle Alexis Godillot, voilà, qui a tout d'un coup, au milieu du 19e siècle, créé une chaussure pour les soldats. Et puis, comment fonctionne tout un imaginaire. Et cette chanson dont on a écouté un refrain, « Les Godillots sont lourds dans le sac », c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une chanson qui circule. Alors, elle part plutôt du... À l'origine, c'est plutôt une chanson un peu égrillarde sur une jeune bergère. Et puis, elle est reprise à un moment par un comique troupier qui s'appelle Wilbert dans les années 1890, exactement 1896, et ça devient un tube de marche, et qui va être repris par tous les, notamment les soldats qui partent à la guerre en 14, tout heureux, et qui vont se retrouver embourbés dans les tranchées avec au pied des chaussures qui sont faites pour marcher et qui marcheront jamais, mais qui sont leur godillot, qui devient le godillot devient un petit peu leur emblème. C'est presque eux-mêmes, quoi. Quand ils parlent des godillots, ils parlent d'eux-mêmes, en fait. Et c'est ça qui est extrêmement à la fois touchant et puis qui révèle de l'histoire, quoi. Voilà. Donc l'histoire marché, c'est ça.
Alors, vous parlez de vous-même avec beaucoup de modestie, Antoine Debecq, à l'intérieur de ce livre. Vous avez d'ailleurs tous les deux pratiqué une sorte de récit par fragments, comme un journal, ce qui m'a beaucoup plu, parce que je pense que, comme les auditrices et les auditeurs, on est embarqués avec vous dans votre aventure, jour par jour, et chaque jour est différent, chaque nuit aussi. Il y a dans votre livre, Antoine Debecq, une dimension européenne, on y reviendra tout à l'heure. Et il y a aussi une dimension ultra-contemporaine. Vous avez rencontré beaucoup de bergères, parce qu'il y a beaucoup de bergères.
Absolument.
C'est un métier qui se féminise, et beaucoup de jeunes femmes bergères, et beaucoup de jeunes bergers. On a l'impression qu'on revient, vous savez, à cette période de l'après-68, où pas mal de militants ont souhaité quitter le centre des grandes villes pour pouvoir regarder le ciel, être en contact avec la nature, s'occuper des animaux et se retrouver eux-mêmes.
C'est vrai que la sociologie, je me suis improvisé sociologue comme ça d'un métier qui est en pleine mutation, qui est celui de berger et donc de bergère, puisque effectivement aujourd'hui à peu près la moitié des bergers sont des bergères, et avec une sociologie qui a complètement changé. Souvent ce sont les plus jeunes, en tout cas des gens qui sont d'origine urbaine, en fait, hein, souvent de la région parisienne ou des grandes métropoles, et qui à un moment un peu perdu dans le monde d'aujourd'hui ont trouvé une voie qui les a menés vers une formation. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau. Les bergers sont moins formés sur le tas que dans des écoles. Alors la principale école est dans la Croix, hein, s'appelle le domaine du Merle aujourd'hui. En tout cas pour les bergers transhumants, hein, les bergers qui vont monter à l'alpage pendant l'été. Et donc là se forment au métier des gens souvent assez jeunes, mais qui ont quand même une première expérience un petit peu ratée, et puis qui tout d'un coup vont trouver leur vocation. Et c'est vrai que on est devant un métier qui a complètement changé. Alors il a changé pour deux raisons. Il a changé pour une raison, disons, conjoncturelle, qui est l'arrivée du loup.
Ça, c'est vous en parlez beaucoup des loups, hein.
Forcément, quand on parle au berger, il vous parle du loup.
Il y en a beaucoup.
Il y en a à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est ça. On en parle sans doute trop des loups, ça, parce que ça déclenche des passions. Mais c'est vrai que ça a changé le métier de berger, notamment transhumant, c'est-à-dire des bergers en alpage, en montagne. Il faut maintenant être beaucoup plus proche des troupeaux, puisque on peut pas les laisser comme ça dans la nature pendant la nuit, par exemple. Donc on les parque, on les réunit. Ça a complètement transformé le rapport aux bêtes. Ça a complètement transformé aussi la durée du travail, ça voilà. Et donc aujourd'hui ça a aussi contribué d'une certaine manière à relancer le métier, c'est-à-dire qu'il faut plus de bergers, plus de bergères pour garder les troupeaux, et puis ça, on les garde autrement, on est sans doute voilà, cette proximité avec les bêtes, et c'est accru. Alors le loup, ça génère des problèmes, ça génère parfois une véritable boucherie sur certains troupeaux, hein. Mais ça aussi, d'une certaine façon, transformé pour le bien aussi, paradoxalement, des troupeaux et des bergers et des bergères, le métier.
Foin de la nostalgie, mais quand même. Antoine de Bec, vous nous racontez que les chemins de transhumance n'existent plus aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a encore 10-15 ans, on pouvait voir des bergers dans le sud de la France qui traversaient les champs, les domaines, les propriétés avec leur escorte de moutons. On ne les voit plus pour une seule et simple raison, c'est que l'automobile a tout détruit et que, semble-t-il, le clan des automobilistes, le lobby des automobilistes a réussi à faire entendre aux bergers qu'il fallait que une grande partie du trajet se fasse dans des camions.
Dans des bétaillères, oui, c'est sûr que... Alors, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est sûrement lié à la pression du trafic automobile. C'est aussi une évolution de la société contre laquelle il est quand même difficile d'aller. C'est-à-dire que, effectivement, la transhumance a lieu...
Mais les voitures pourraient s'arrêter... Avant, elles s'arrêtaient quand on voyait des troupeaux de moutons. Ça nous est tous arrivé, hein.
Absolument, c'est vrai. Mais aujourd'hui...
Et on était contents d'être arrêtés par des moutons.
Alors, vous dites quelque chose de juste. En même temps, c'est difficile de faire comprendre ça à des centaines de milliers d'automobilistes. D'autant plus que la transhumance a lieu, entre guillemets, à un mauvais moment. C'est-à-dire que c'est fin juin, la transhumance.
Mais les moutons sont pas obligés de passer sur les autoroutes.
Les moutons de toute façon passent par des petites routes, essayent au maximum de trouver des chemins de traverse, des chemins.
Mais ça vous choque pas, ça, cette déshérence de la transhumance?
Bien sûr que ça me choque, et en même temps, je pense que c'était difficile de faire autrement.
Et c'est-à-dire partout en Europe, c'est la même chose.
Ah oui, absolument. Et en plus, c'est à la fois fin juin et dans une région, la Provence, qui est quand même une région hautement touristique à ce moment-là. Donc voilà, il y a eu un certain nombre de conflits qui ont été jusqu'à un certain nombre de drames, hein. Donc voilà, moi ça me choque au sens où évidemment la violence faite à un troupeau n'est pas la même quand on monte en 3 semaines. Hein, depuis la Croix jusqu'aux alpages des Alpes, et quand on monte en 4 heures. Voilà, c'est sûr que les bêtes ne réagissent pas du tout pareil. Vous avez des bêtes qui se retrouvent qui montent depuis cette steppe de la Croix et se retrouvent tout d'un coup devant des alpages avec une herbe toute nouvelle, grasse, sucrée. Les ventres explosent, hein, littéralement, de bêtes qui sont pas parfois... mal amené, trop vite. Donc voilà, il y a un certain nombre de problèmes. Et puis surtout, c'est la fin d'un à la fois d'une civilisation pastorale et puis d'un chemin. Donc moi, je me suis intéressé plus particulièrement à ce chemin, dont il ne reste aujourd'hui effectivement plus que des traces, mais qui sont des traces, voilà.
Des traces qui disparaissent elles aussi, d'ailleurs, c'est ce que vous dites.
Qui disparaissent elles aussi à travers, voilà, les fontaines, les bornes milières, les bories, tout ce qui permet de faire étape. Tout ça est souvent gagné par la draille elle-même, le chemin d'autrefois, par le bitume, par le béton, par la clôture aussi de la Provence, hein, qui est un vrai drame touristique. Hein. C'est sûr que cette intensification du peuplement et de la clôture dans les nouveaux systèmes pavillonnaires en Provence, c'est quelque chose qui est terrible et qui a morcelé le chemin. Alors voilà, il y a une résistance qui est faite par que le chemin emprunte, c'est-à-dire que cette draille, on peut la retrouver, on va au cadastre, on va on fait un travail là vraiment d'histoire ou de géographe, les deux mêlés, et on peut redessiner l'ancienne draille qui a existé depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. Et puis une fois qu'on l'a redécouverte sur le chemin, il faut la marcher. Et donc c'est là où commence un certain nombre de problèmes. C'est vrai qu'on se perd un peu. C'est vrai que c'est parfois compliqué de traverser certaines clôtures, certaines propriétés. Mais on peut le faire. D'autant plus que aujourd'hui, donc, c'est mis en place une action militante, hein, qui est une action d'une association qui s'appelle Chemin de Transhumance, la Routo, la Maison de la Transhumance, qui a décidé de retrouver ce chemin, de le réouvrir à la marche. Et la Fédération Française de Randonnée Pédestre a emboîté le pas, si je puis dire, en transformant, c'est en cours, en balisant ce qu'on appelle le chemin, pour le transformer en un GR, un sentier de grande randonnée qui va ouvrir dans un an. Et donc, moi j'étais un petit peu l'éclaireur en avant-première, comme ça, sur ce chemin, une sorte de pré-baliseur qui faisait à la fois l'expérience un petit peu compliquée de se retrouver tout d'un coup devant 5 kilomètres de bitume, ce qui n'est pas toujours agréable, ou un chien qui garde un enclos, mais en même temps qui avait cette joie, cette sorte d'euphorie même, parfois, de faire en premier le chemin tel qu'il n'avait pas été fait depuis presque une trentaine d'années, en fait.
Je vous propose d'écouter la voix de Jacques Derrida, vous qui êtes tous les deux des philosophes. Il va évoquer la citoyenneté européenne. C'est une archive INA de 2001.
Ce qu'on nomme l'Europe, ou la philosophie européenne, c'est non seulement un corps de culture, de langue, de tradition qui se rassemblent, mais c'est aussi un tourment et un travail porté à justement excéder le lieu européen, à excéder ses propres frontières, se porter au-delà de son lieu de naissance. Je crois que c'est ça qui caractérise justement le meilleur de la philosophie européenne, de l'esprit européen. Donc, comment faire pour être un héritier de l'Europe de ce point de vue-là, sans eurocentrisme. C'est ça la difficulté de cette réponse, de cette responsabilité.
Nous venons d'entendre la voix de Jacques Derrida, c'était en 2001, nous sommes en ce moment même au printemps 2019, vous l'avez vu aussi bien dans les journaux, à la télévision, à la radio bien évidemment, sur notre propre antenne, on parle beaucoup de l'Europe, et vous, Emmanuel Ruben, à la fin de votre gros ouvrage, en épilogue, vous écrivez ceci. Vous dites que ce livre est le fruit d'une triple passion, passion pour le Danube, passion pour la petite reine, mais aussi, et là je vous cite, passion pour l'histoire d'un vieux continent, l'Europe, l'homme malade de la planète, le nouvel empire multinational candidat à l'éclatement, après l'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie, l'URSS et la Yougoslavie. Or, nous savons que cette Europe, ajoutez-vous, qui s'est suicidée tant de fois et qui meurt aujourd'hui à petit feu, n'aura pas de troisième chance si elle s'auto-détruit de nouveau. Pessimiste. Diagnostic
inquiet,
très...
Inquiet, je dirais.
Inquiet, plus pas que pessimiste.
Oui, inquiet.
Moi, je dirais aussi inquiet, et vous avez peut-être raison d'être inquiet, mais aussi pessimiste dans la mesure où on nous parle d'une Europe comme un seul continent. Mais vous, grâce à votre périple en Europe avec votre vélo, finalement, c'est des cultures traditionnelles que vous allez croiser, c'est des fêtes nationales, c'est des personnes qui réagissent d'après leur territoire. J'ai pas tellement vu l'unité, j'ai vu une succession de territoires géographiques avec leurs habitudes culturelles, avec leur perception de leur paysage, de leur mémoire. Mais pas un seul continent. Je me trompe ?
Je ne serais pas si pessimiste. Parcourir l'Europe ainsi à vélo, c'était justement faire le pari d'une continuité. J'ai souvent dit que l'Europe était un archipel. Je crois qu'elle est un archipel, au sens de l'archipel de Glissant, ce qui est une force de l'Europe. Et en même temps une difficulté. Vision qui a été renforcée par le fait que je faisais comme nous tous, des petits sauts de puce en Europe. Vous savez, souvent, vous avez un ami qui vous dit « Ah ben, le week-end dernier, j'étais à Stockholm. » Et puis un autre ami qui vous dit « Le week-end dernier, j'étais à Copenhague. » Et un autre qui vous dit « J'étais à Séville. » Traverser l'Europe en vélo, c'était justement faire le pari qu'il y avait peut-être une continuité.
Alors, conclusion et fin de l'émission avec vous, Antoine Debecq. Le constat que vous dressez rejoint un peu celui d'Emmanuel, notamment dans la désertification des petites villes, dans le fait que même en France, il y a plusieurs Europes sur le territoire français et on a l'impression d'une disparité économique. Vous avez écrit ce texte bien avant le phénomène des Gilets jaunes, mais on peut y lire aussi des traces et des conséquences des actions des Gilets jaunes à travers votre observation sur le chemin de la transhumance. Quels sont vos espoirs et votre diagnostic sur l'Europe aujourd'hui, 15 jours avant les élections ?
C'est une question difficile. C'est vrai que l'intérêt d'un chemin comme la transhumance, c'est de passer de la prospérité d'une cité comme Arles, par exemple, à quelques kilomètres plus loin, bah déjà les cités hein, qui entourent Arles, qui sont des lieux quasiment à l'abandon, et puis traverser des bourgs, des petites villes qui sont dont le centre est complètement dévasté en fait, mais dévasté pas par ce qu'il y a une violence, mais parce que il y a une sorte de désertification absolue de ces endroits-là. Il y a une autre violence qui pour moi est très douloureuse aussi, c'est la violence du tourisme. Et donc qu'on soit en Provence avec voilà cette sorte de clôturation du paysage, ou qu'on soit dans un certain nombre d'alpages qui sont gagnés par les stations de ski, par exemple, hein, on est devant quelque chose qui, là aussi, fait violence de façon très, très agressive à la nature. Après, moi, ce qui m'a beaucoup, je dirais, non pas rassuré, mais m'a redonné pas mal d'espoir, c'est d'abord ce qu'on m'a dit tout à l'heure sur la vitalité d'un métier comme celui de berger, et puis c'est cette idée que il y a une tradition pastorale qui demeure et qui a à voir avec quelque chose qui est justement le passage de la frontière, puisque tous ces bergers, en tout cas, pas les nouveaux bergers, mais les anciens bergers, dans les pas desquels se mettent les nouveaux bergers, ils sont piémontais en fait. Hein. Il y a une tradition, ils viennent tous des mêmes vallées, le Val Stura, le Val Maïta. Voilà, ce sont des régions, des vals du Piémont. Et ce qui est très beau, c'est qu'ils parlent la même langue que les Provençaux, c'est-à-dire que ce sont des vallées occitanes. Et donc, depuis le début du 19e siècle, ça circule entre ces deux endroits. Et longtemps, il y a eu des frontières qui ont pu être très agressivement closes à certains moments, notamment pendant des guerres. Et malgré tout, ça circulait de façon très puissante hein, à travers cette frontière. Donc il y avait une véritable migration par le pastoralisme hein, qui a existé, qui a fait exister cette culture qui est vraiment transnationale en fait. Et donc voilà, à une toute petite échelle sûrement, mais il y a quelque chose qui excède aussi bien la barrière que la frontière.
Ben, vive l'Europe et merci à vous deux. Je rappelle que votre livre Emmanuel Ruben s'intitule « Sur la route du Danube » et qu'il vient d'être publié aux éditions Rivage, et que le livre d'Antoine Debecq vient de sortir aux éditions Artaud et qu'il s'intitule « Ma transhumance, carnet des routeaux ». Et on va se quitter en écoutant un grand voyageur qui est aussi un marcheur qui s'appelle Bertrand Belin, Nuit Bleue.
Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Sur un coup de tête, elle fait les 100 pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre la fenêtre, le ciel est noir d'oiseaux. Oh, c'est de chacun. La vérité nue, la vie crue, les nuits bleues, le bruit et la fureur, le ciel a changé, il a changé de place. Oh. Le ciel a changé, il a changé, enfin de place. Un vague âme, ouste chouka. Un vague âme, ouste chouka.
Et c'est avec cette nuit bleue de Bertrand Belin que nous allons nous quitter ce soir, non sans remercier Rémi Sistiaga qui était à la technique ce soir, Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard, Mathilde Verfailly et Pierre Dindy, et Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et après le prochain journal d'information, vous retrouverez l'ami Mishka pour son Very, Very Good Trip.